Bonjour, vous commencez à écouter un autre numéro de la saison numéro 2 du Fil Fer. Vous êtes sur Radio FM+, 91 FM, Montpellier. L'impossible, c'est le réel. Jacques Lacan. Raphaël Lucas, voici le second volet que le Fil du Fer vous consacre. Pour votre présentation biographique, j'invite les auditeurs à trouver en ligne le podcast du Fil du Fer précédent. Je rajoute ceci. À New York, New York City, vous avez vécu dans la communauté mexicaine exilée sans papier. En 2012, vous avez fait un stage à la Maison de l'Image Documentaire A7 auprès de Cédric Gerbeil, j'espère bien prononcer, un photographe belge. Le premier volet porta sur votre chemin en tant que compositeur. Aujourd'hui, le Fil du Fer aborde votre chemin en tant que photographe. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Nous aimons ça. Votre site est www.raphaël-lucas.net. Vous avez tout récemment exposé dans le cadre des Photofolies de Rodez, une série photographique, Les Puissantes. C'est le projet que nous aborderons dans la seconde partie de ce Fil du Fer. Ce sont des portraits de femmes vivant et travaillant sur le Larzac. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Partons de là et faisons le lien avec l'émission précédente. L'image peut être du son et le son peut être de l'image. Ce sont vos paroles. Vous dites aussi que photographier, c'est écouter. Qu'entendez-vous par là ?
J'entends que dans la pratique sensible quoi, de la photographie, il y a une façon de travailler l'image qui est un peu similaire à celle que je pourrais avoir en travaillant le son. Par exemple, la qualité visuelle d'une image, pour moi, elle peut s'apparenter un peu à la qualité d'un son, en fait. C'est-à-dire, on peut la décrire en termes de brillance, de grain, de couleur, tout un tas d'aspects, en fait, qui sont plus ou moins similaires, quoi, plus ou moins interchangeables aussi.
La composition musicale, c'est ce que vous m'avez dit, permet la connexion avec votre moi profond à révéler. Bref, comme vous me l'avez dit, faire sortir ses tripes. Avec la photographie, en tant que photographe, vous vous révélez, je vous cite, dans le relationnel avec ce qui est photographié. Quels sont vos sujets et thématiques favoris en photographie et pourquoi ces sujets et thématiques-là ?
En fait, je me suis lancé dans la photographie, dans la pratique photographique, pour un peu pallier un manque que je sentais avec la composition en elle-même, qui était en fait un besoin de travailler sur mon rapport au monde, en fait, d'aller à la rencontre du réel, d'aller à la rencontre du monde, et d'une certaine manière aussi de m'y confronter d'une manière complètement différente de celle qu'apporte la composition, c'est-à-dire pas d'une manière intérieure, mais d'une manière plutôt, on va dire, extérieure. Du coup, pourquoi ce sujet-là? Les sujets que je traite, parce que ils me concernent en fait. Effectivement, il y a un effet d'un peu de miroir, je pense, dans mon travail photographique, qui est en partie une sorte d'introspection, mais une introspection dans le contact avec le réel, dans en étant en prise avec la vie et avec les autres. Donc, évidemment, c'est des sujets qui touchent. L'exil, le corps masculin, le rapport à soi, en fait, l'existentialité. Qu'est-ce que c'est que être, tout simplement? C'est ce que j'essaye de travailler avec la photographie.
La photographie vous a permis de comprendre qui vous étiez et que vous n'aviez pas encore investi votre existence. Voulez-vous dire que la photographie demande, et vous l'avez dit, mais peut-être prolongé, que demande à se confronter au réel, et qu'est-ce que c'est que le réel pour vous?
Alors, le réel, du coup, c'est... Bon, évidemment, il y a cette citation de Jacques Lacan, « L'impossible, c'est le réel ». Donc c'est définitivement quelque chose dont on peut se rapprocher, auquel on ne peut pas vraiment accéder. Du moins, c'est comme ça que je le perçois. Et pourtant... quelque chose dans lequel on est entièrement. C'est le support de même de l'existence. Et donc, y a toute une énigme, en fait, qui émerge, en fait, de ce rapport au réel. Et la photographie me permet, quelque part, de poser cette énigme-là, pas du tout d'y apporter des réponses, mais du moins d'apporter une certaine expérience d'un rapport au réel, et aussi des traces de ce rapport au réel en photographiant, en fait, qui après, par retour, quelque part, et à la fois donc le retour par les images en tant que telles, qui sont une forme de traces, de souvenirs de ce rapport au réel, et puis par l'expérience que ça permet de vivre, me permet de m'interroger justement sur ce rapport au réel. Donc le réel, effectivement, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est quelque chose, c'est ce qu'on en fait, quelque part, au final, pour dire une généralité. Mais... là, précisément, je le découvre au fur et à mesure que je le vis, ce réel, en fait. Voilà.
Vous m'avez dit, la photo me permet de ne pas me dissoudre dans l'expérience que je vis. La photographie pose un cadre. Photographiez-vous pour dresser la carte de votre existence et de ses expériences ? Bref, est-ce que c'est en photographiant les autres de l'autobiographie ?
Alors, il y a... Comment dire ? Un premier aspect qui est qu'effectivement, au moment où je me suis mis à photographier, comme je disais, c'était par un besoin d'ancrage dans le réel, d'aller à la rencontre du réel, d'aller à la rencontre du monde. Évidemment, ça m'a amené à vivre certaines expériences que je n'avais pas vécues jusqu'à présent, ou que je n'aurais pas pensé vivre, hein, je ne sais pas, au fil de ma, suivant tout simplement le fil de ma curiosité, de mon inspiration et de ce qui me semblait être important à observer. Et effectivement, parmi ces expériences-là, bon, certaines m'ont ébranlé. M'ont ébranlé dans le sens où elles ont remis en question ma vision du monde, elles ont remis en question certains fondements peut-être de mon psychisme, je sais pas, c'est tout un tas de choses comme ça. Et effectivement, le fait de les avoir vécues avec la photographie, c'est-à-dire d'avoir l'appareil photo, et toujours cette espèce de direction qui était de faire des images et d'essayer de voir ce qui ressortait photographiquement de ces expériences-là. Ça m'a permis de vivre ces expériences sans me dissoudre en les vivant, c'est-à-dire même s'il y avait des formes de prise de risque, quelque part, je gardais toujours un peu les pieds sur terre grâce à cette pratique photographique qui me faisait revenir dans, on va dire... un réel dans lequel je peux vivre, voilà, c'est continuer d'exister.
Vous êtes un photographe autodidacte, pas de formation à l'école. Vous vouliez entrer dans le monde, ce que ne permet pas la musique, selon vous. Qu'est-ce qui a éduqué votre regard et formé votre technique ?
Alors en fait, je pense que la musique n'est pas un... comment dire, un frein pour entrer dans le monde, mais c'est la façon dont je la pratiquais qui faisait que elle, quelque part je pouvais pas accéder au monde à travers la musique, puisque effectivement je me suis j'ai été formé depuis mon plus jeune âge en musique, et le besoin aussi de pratiquer la photo a émergé à un moment donné où je me demandais quel artiste je pourrais être si je partais de zéro, si je repartais de zéro en fait, et c'était difficile de repartir de zéro en musique bien entendu. Alors, voilà, du coup, ça m'a permis d'explorer aussi la pratique artistique différemment. Et la partie autodidacte, c'était plus une question de fraîcheur de pratique, en fait. J'avais tout à construire. Après, mon regard s'est construit sur peut-être les mêmes choses que la musique, mais une sensibilité tout simplement visuelle au départ. Hein, effectivement, dans le lien entre le son et la lumière, que je peux faire, cette sorte de synesthésie, l'envie de capter de belles lumières, de belles compositions naturellement qui étaient présentes dans, comme ça dans le monde, dans la nature. Et après j'ai travaillé ce regard-là en observant de la photographie, en en parlant avec d'autres photographes. Effectivement, je ne me suis pas formé à l'école, mais j'ai fait pas mal de workshops avec des photographes qui... me plaisent, avec qui je pouvais me reconnaître dans leur travail, et ça m'a permis d'avancer en fait, de me poser certaines questions.
Enfant, avec les apprentissages de la musique, vous aimiez déjà la photographie et l'appareil photo. J'ai une sensibilité à la lumière et à la composition dans la nature, vous venez de le dire, et c'est ce que vous m'avez dit avant. Qui ou quoi vous a guidé dans cette attention à la lumière et la composition ? Est-ce que c'est l'instinct ?
Certainement en partie. parce que il y a des souvenirs en fait, d'ailleurs très liés à la région, de certaines luminosités que je regardais hein, quand j'étais enfant, qui m'ont à la fois servi pour composer de la musique, enfin du moins pour avoir l'idée de certains sons, et qui en fait m'ont aussi donné tout simplement l'envie de reproduire à travers la photographie ces lumières-là, ou du moins de les capter en fait.
Je serais curieux de savoir un paysage. Est-ce que c'est les paysages, c'est toi, puisque vous êtes né à Sète, c'est l'étang, c'est la mer, qu'est-ce que c'est ?
Là, ce serait plutôt des paysages toute cette zone qui est un peu plus vers la Garrigue, on va dire le Piémont, du Larzac, Garrigue, vigne, lumière chaleureuse de fin d'après-midi, très brillante et très, très chaude donc. Ces ocres et verts de la nature, enfin voilà, c'est du merci, ouais, et la clarté du ciel aussi. C'est...
Lors d'une de nos conversations, Raphaël, vous m'avez nommé trois photographes, Doane Michals, Nan Goldin, José Medeiros, j'espère bien prononcer, deux États-Unis, un Brésilien. Vous m'avez dit que chacun représente pour vous une facette de la photographie, c'est-à-dire, assez rapidement.
C'est-à-dire que c'est d'ailleurs ces photographes-là qui principalement m'ont formé en les regardant au départ. Et effectivement, pour moi, en simplifiant, mais ils représentent trois choses que la photographie pourrait m'apporter, ou trois potentiels que la photographie a. Avec Doane Michals, ça serait ce potentiel symbolique et d'exploration du psychisme de la photographie. Nan Goldin, c'est tout un travail sur la mémoire. Elle le dit elle-même d'ailleurs dans la préface de La balade de la dépendance sexuelle. Et la mémoire, la documentation du présent, du temps. Et José Medeiros, c'est plus un travail de vraiment de photo documentaire, mais qui monumentalise le sujet, qui en fait un sujet beau, esthétique. Il y a une très très belle série d'Indiens d'Amazonie qu'il a réalisée dans les années 50, qui sont à la fois très humaines, très empathiques et très belles en fait.
Nous arrivons à mi-parcours du fil du fer. Nous allons écouter votre choix, Raphaël. Et votre choix, c'est Abdullah Ibrahim, c'est Maraba Blue. Musique. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio FM+, 91 FM à Montpellier. Vous écoutez Le Fil du Fer et c'est Raphaël Lucas, photographe, qui est son invité. Vous vous intéressez à la photo documentaire. Vous utilisez la photographie pour documenter votre place et celle des autres dans la société. Vous avez suivi pendant un an à Paris, 10e arrondissement, un groupe de jeunes exilés afghans. Pourriez-vous parler de cette expérience et ce qu'elle a préparé pour votre travail en cours dont nous parlerons et qui a pour titre Les Puissantes ?
Oui, c'était... la toute première confrontation du coup avec le réel que je cherchais tant, hormis quelques expériences précédentes, peut-être un peu plus simples dans le sens où c'était juste de l'architecture en faisant de l'urbex. Et bon, les choses sont faites. Finalement, je me suis simplement laissé guider par un peu le flow quoi de la vie parisienne. Mais il se trouve que j'ai fini par rencontrer ces jeunes gens qui vivaient, du moins qui passaient leur journée aux environs de la gare de l'Est. Et bon, par rapport à l'expérience que j'ai eue aux États-Unis quand j'ai fait mes études de composition là-bas, il y a quelque chose évidemment qui a tout de suite résonné, parce que je vivais dans une communauté de migrants aux États-Unis, dans la banlieue de New York, de migrants mexicains. Et donc j'avais été pendant toutes les années là-bas un peu plongé au quotidien dans cette expérience en fait de l'exil, d'être sans papier, tout ce rapport à la société et au travail, à soi que ça implique. Même si effectivement, au départ, cette expérience-là, je ne l'ai pas cherchée particulièrement. Et je ne me rendais pas forcément compte d'ailleurs de ce qu'elle signifiait dans l'actualité du monde aujourd'hui. Donc je la vivais de manière très, très, très spontanée. Là, en rencontrant ces jeunes gens, effectivement, j'ai trouvé, bien entendu, voilà, un sujet photographique qui me semblait avoir un bon potentiel pour m'entraîner et puis tout simplement pour me jeter dans cette expérience-ci. Après, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, évidemment. C'était une expérience compliquée à vivre sur le plan, on va dire, relationnel, comprendre le fonctionnement de cette communauté, les relations interpersonnelles entre eux, moi. J'ai eu pas mal de difficultés, entre autres, à faire comprendre ce que je cherchais, ce que je cherchais à faire. Et puis moi-même à le comprendre jusqu'à un certain point, en fait. Mais ça a donné une petite série. J'ai quand même passé plus de 6 mois avec eux, quasi quotidiennement. J'en ai tiré quelques images, effectivement, qui, à mon sens, apportent un regard peut-être différent, différent de ce qu'on peut, en général, voir comme travaux documentaires sur ces sujets-là, sur ces personnes. C'est vrai qu'au départ, il y avait une profonde admiration à la fois pour le courage, la résilience de ces personnes. C'est un peu ce que je cherchais à montrer. Et du coup, j'en ai fait quelques portraits où j'ai essayé de les magnifier physiquement, de montrer à quel point ils étaient beaux, à quel point ils étaient dignes, en fait, même si ils vivaient des choses très, très difficiles.
Avant d'aborder votre travail photographique en cours, pourriez-vous dire pourquoi vous avez choisi, après Paris, après New York, de vivre dans le Larzac, sur le Cos, un espace d'isolement, peut-être ?
C'est une sorte de suite logique, on va dire, de mon parcours, même si ça semble très contrasté. Mais effectivement, après ces années à New York, dans tout un système, on va dire, d'institutions, avec la formation à l'université et ce rapport à l'art aussi que j'essayais quand même de déconstruire, tant bien que mal. Et puis finalement le retour en France, qui a été certainement assez difficile, me reconfronter à la réalité française, avec tout ce que ça implique de difficultés pour trouver sa place dans cette société. Et puis Paris, qui a été aussi une expérience, avec à l'intérieur d'autres expériences très riches, dont... Je pourrais passer des heures à en parler, mais évidemment, là, on va aller vite. Mais pourquoi le Larzac, du coup, pour aller simplement, peut-être. Il y a plusieurs choses. Il y a le besoin de retrouver, alors pour revenir sur le réel, un réel plus simple, plus concret à aborder, plus à portée de main, avec un rapport à la nature qui est pour moi assez essentiel. Une sorte de remise à plat aussi de mon rapport aux autres, la façon dont je vis le lien social. Donc effectivement, à la campagne, les choses sont d'une certaine manière, pas vraiment simplifié dans le fond, mais dans la forme en tout cas. Il y a une forme de simplicité que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi le besoin de retrouver du temps libre pour moi et du temps de pensée aussi, qu'on a du mal à avoir quand on est en ville, je pense, avec toutes les sollicitations, toutes les diversions possibles. Il y a un choix aussi de mode de vie qui me semble important à faire aujourd'hui, autant pour la qualité de vie que pour la façon justement le rapport qu'on a à l'environnement, c'est-à-dire de vivre peut-être plus sobrement aussi, en consommant moins, en étant moins dans le besoin permanent.
Venons-en à votre série photographique, Les Puissantes. Tout simplement, qu'est-ce que Les Puissantes ? Dites, s'il vous plaît, ce qui conduit votre projet.
Alors, ce qui conduit ce projet, c'est à la base, en arrivant sur, parce que c'est un projet que j'ai commencé en arrivant sur le Larzac, il y avait une envie, un besoin d'ailleurs, tout, plus simplement de repartir sur le terrain en termes photographiques, de renouveler aussi ma pratique photographique dans le documentaire, puisque sur les derniers temps à Paris, j'étais parti sur un mode d'expression très autobiographique, une sorte de travail un peu plus sur le psychisme en photographie. Du coup, je me suis plongé progressivement dans, au fur et à mesure des rencontres dans ce que je pourrais trouver d'intéressant sur le Larzac. Au départ, je voulais travailler sur le paysage, parce qu'évidemment, le paysage là-bas est fascinant. Mais je voulais aussi un sujet, bien entendu, humain. J'ai eu l'idée de travailler dans la continuité de ce que je faisais à Paris sur le corps masculin. Et puis, bon, je me suis dit que c'était intéressant aussi d'explorer autre chose. Donc, petit à petit, en conversant, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une spécificité féminine sur le cause dans ce territoire-là. Alors évidemment, je sais pas pour les autres, mais j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait une forme de force toute particulière et que les femmes avaient une place aussi que j'avais pas forcément pu observer ailleurs dans la société. Il m'a semblé qu'elles étaient vraiment comme des moteurs, qu'elles prenaient énormément d'initiatives, qu'elles menaient à bien. Il m'a semblé que c'était aussi, pas du tout comme je l'avais imaginé au départ, un sujet qui pourrait être triste ou dramatique. En parlant avec des personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très, très positif, même dans certaines formes d'adversité, que ces personnes trouvaient aussi une forme de résilience tout à fait étonnante. Bon, partant de là, de cette constatation, il y avait aussi, moi, pas mal de mes propres questionnements, les nouvelles questions qui ont émergé de cette expérience d'aller vivre sur le Larzac. Et évidemment, j'ai senti en fait que même dans la rencontre avec ces femmes-là, je pourrais aussi apprendre quelque chose pour moi. Donc du coup, je me suis lancé dans ce travail photographique, à la fois pour explorer cette puissance, puisque c'est le titre du sujet, Les Puissantes, cette puissance qui émane d'elles, et pour mieux les connaître et effectivement pour apprendre quelque chose aussi de mon côté.
Et alors, ces femmes, comment est-ce que vous les photographiez ? Par ce comment c'est, quelle est la procédure ? Comment vous les rencontrez ? Comment vous faites pour les mettre à l'aise ou pas, etc.
Alors, il n'y a pas forcément de stratégie. C'est vrai qu'il y a un mode de comment dire, une pratique, quoi. Bon, comment les rencontrer ? C'est souvent par cooptation, donc quelqu'un qui connaît qu'un tel, ou tout simplement parce que j'ai entendu parler d'une personne qui faisait telle chose dans sa vie, et ben, dans ce cas, je vais directement vers elle, je lui demande si elle est éventuellement intéressée. Alors déjà, je lui explique ce que c'est mon projet, que c'est de la photographie documentaire, et ensuite, donc il y a vraiment tout un côté de relations interpersonnelles, en fait. Je vais pas du tout commencer par photographier, en fait, ça m'intéresse pas particulièrement. Dans la procédure, on fait connaissance, comme des gens normaux, comme des gens dans la vie réelle. Je leur propose de participer à mon projet, ou du moins, je leur décris ce que c'est, et je leur propose de commencer, en fait, par avoir une conversation ensemble. Donc, on commence toujours par parler. Je fais des entretiens qui durent une heure et demie, j'en fais plusieurs, que j'enregistre aussi. Donc, de ces conversations, parce que c'est pas du tout une interview au sens où je pose des questions et elles me répondent, on a un vrai échange. Quand il y a des idées qui émergent, je réagis aussi, je donne, donne ma part aussi quelque part. Et donc, dans cette intersubjectivité, il y a des choses qui naissent, une relation qui peut être amicale, qui peut être pas forcément amicale d'ailleurs, mais de confiance du moins. Et à partir de là, à ce moment, peut commencer le travail photographique, on va dire. Dans le sens où là, je vais proposer qu'on fasse un portrait, une vraie séance de portrait. Alors, évidemment, pas un portrait de mode, mais bon, qui est pour commencer une sorte de aussi de travail comme ça un peu collectif, un peu commun sur comment faire ce portrait. Et puis je demande si je peux suivre, dans le sens plus documentaire pour le coup, suivre la personne dans des activités du quotidien, chez elle, au travail, sur des choses qui me semblent avoir du sens par rapport à ce qui a émergé des entretiens qu'on a eu au préalable. Puisqu'effectivement je pose des questions pas sur qu'est-ce qu'elles font dans la vie, enfin encore que je pose ces questions là, mais la finalité c'est pas ça. Les questions et les sujets que ces entretiens amènent sont plus de l'ordre c'est des questions en fait existentielles. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui? Quel est le rapport qu'elles ont avec ce territoire-là, avec leur féminité, avec leur histoire familiale, avec le présent, avec le futur? Donc on se pose des questions justement de ce type.
Vous avez été tout récemment exposé aux Photofolies de Rodez. Comment avez-vous été sélectionné pour être exposé aux Photofolies de Rodez du 5 au 27 octobre 2019? C'était la galerie Sainte-Catherine.
Alors c'est une galerie qui est gérée par Aveyron Culture, qui est l'antenne culturelle du conseil départemental de l'Aveyron. Et je leur avais présenté mon projet il y a quelques mois, à un moment donné où il était très théorique. Mais bon, l'idée avait plu et donc on a suivi un peu le cours de la relation avec eux. Et à un moment donné, là, il y a eu cette proposition d'exposer dans le cadre de Photofolie qui a été faite. Donc ce que j'expose, c'est un peu l'esquisse de ce travail, les puissantes. Il y a des portraits, il y a pas mal de photographies du paysage aussi. Mais pour l'instant, la forme et le contenu ne sont pas vraiment aboutis. J'ai travaillé quoi, 7-8 mois, mais j'espère pouvoir travailler 2 ans là-dessus.
Raphaël Lucas, il est temps de redire la citation que vous avez proposée pour éclairer notre conversation.
L'impossible, c'est le réel.
Et c'est de Jacques Lacan. C'était le fil du fer, où l'on dit et redit, et prouve que la différence entre faire et ne pas faire, c'est faire. Chères oreilles et chers cerveaux à l'écoute du fil dans le fer des autres, je vous dis à bientôt.